Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.
Et bonsoir à toutes et à tous, on est ravis, je suis ravie de vous retrouver ce soir sur Radio Calade pour la nouvelle émission de Alors on change. Vous le connaissez, c'est notre rendez-vous mensuel d'Alternativa Villefranche consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade
100.9.
Le nucléaire ne sauvera pas le climat, c'est le titre de notre émission de ce soir et ça pose la ligne sur laquelle pas mal d'associations du mouvement climat fondent leur position sur un sujet ô combien débattu. Les promoteurs de l'atome se sont appuyés dès les années 50 sur les alertes climatiques qui arrivaient pour promouvoir cette énergie nucléaire. Le premier choc pétrolier d'octobre 73 légitime alors le premier plan Messmer, ce plan du premier ministre français de l'époque qui lançait le volet indépendance énergétique de la grande politique énergétique française. Faut-il préciser que ce plan fut décidé sans concertation publique, sans pédagogie, et c'est peut-être d'ailleurs là une des premières explications pour avoir une proposition sur la difficulté d'un débat apaisé et calme sur ce sujet en France. Ces mêmes années, parallèlement, du développement des politiques énergétiques nucléaires, voit aussi la contestation nucléaire s'organiser, des contestations antinucléaires en France, en Europe, plusieurs thèmes qui construisent le plaidoyer de cette contestation, le manque de démocratie, la viabilité économique qui est questionnée, mais aussi des questions sur le plus philosophique, et dont nous parlerons tout à l'heure, sur le productivisme. On note alors que ces oppositions se forment sur ce que le nucléaire porte en lui, une société plutôt contrôlée par des experts, une société plutôt centralisée aux mains de quelques décideurs. Et on note déjà à ce moment-là ce qui va former la différence avec les premiers principes de l'écologie politique, la décentralisation, l'autonomie et une gestion impliquant citoyens et citoyennes. Et ce qui frappe aujourd'hui, en 2024, et ce, après Tchernobyl, après le Fukushima, ou après les retards et les coûts énormes que l'on entend régulièrement aux nouvelles sur l'EPR, ce qui frappe aujourd'hui, c'est que ce nucléaire en France renvoie une image de plus en plus positive, contrairement à d'autres manières de produire de l'électricité, comme l'éolien par exemple. Alors faut-il y voir le résultat d'une propagande érigeant le nucléaire en énergie renouvelable, une propagande d'ailleurs alimentée par des influenceurs plutôt masculins, hyper médiatisés et bénéficiant d'un temps de parole assez disproportionné? Faut-il y voir la conséquence d'une population saturée d'informations qui, peu disponible, remet alors les questions de sa liberté et de son avenir dans la main de députés ou de décideurs présumés lucides et compétents pour faire face à un défi qui nous semble impressionnant et inatteignable que de se battre pour des conditions de vie humaine plus favorable sur cette terre? Ou alors faut-il y voir la consécration d'une technosolutionnisme, une solution très bien pratique pour ne pas s'attarder aux problèmes frontaux et pour ne pas s'attaquer frontalement à des vrais problèmes qui est peut-être l'emballement sans précédent d'un libéralisme et d'un capitalisme effréné? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les pistes d'action que l'on peut suggérer aux citoyens, aux citoyennes qui nous écoutent, à celles et ceux qui veulent jouer un rôle moteur dans la mise en place de solutions alternatives concernant la production énergétique? Ce sont toutes ces questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités qui sont là. Et bonsoir Ange Potin. Vous nous entendez?
Bonsoir.
Ouais. Vous êtes en ligne avec nous depuis la Normandie et vous êtes agrégé et docteur en philosophie à l'École normale supérieure de Paris. Et vos recherches sont notamment consacrées aux industries énergétiques et chimiques, à toutes les imaginaires et à tout l'héritage résiduel qu'elles nous lèguent. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un super bouquin que nous avons lu pour préparer cette émission, Le nucléaire imaginé, aux éditions La Découverte. Et nous allons largement en parler ce soir. Et en studio, nous accueillons une deuxième personne. Bonsoir, Jean-Pierre Collet.
Bonsoir à tous.
Vous êtes militant au sein du collectif Sortir du nucléaire Bugey, à proximité de la centrale du Bugey, qui est l'une des plus anciennes centrales nucléaires de France, dont certains et certaines parlent comme d'un mastodonte, mais aussi d'un monstre sénile. Donc vous vous mobilisez avec votre collectif contre l'implantation de nouveaux réacteurs EPR sur ce site. Et vous avez vous aussi publié un récent ouvrage qui s'appelle « Claudette et la centrale » aux éditions et livres. Et nous sommes ce soir avec vous deux pour en discuter.
Défaillance à Civaux sur le réacteur 2, c'est une panne de pompe repartie depuis peu. Défaillance à Chinon sur le réacteur 1, mais que s'est-il passé? Ça, nous n'en saurons rien. Problème électronique sur Fessenheim 1, une carte à changer, en détail, trois fois rien.
Toi, tu me fais de l'électricité, tu fais monter ma tension. Pour ne pas tomber dans la lubricité, faudra que je fasse attention.
Le bilan carbone du nucléaire, c'est 12 grammes de CO2 par kilowattheure. Celui de l'éolien, c'est 11 grammes. On peut donc dire en termes hautement scientifiques que c'est archi pareil.
Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement.
Vous savez, ça fait des années qu'on disait il faut fermer des centrales nucléaires. Ben, y a ceux qui en parlent et puis nous, on le fait.
Il y a évidemment des tas d'inconvénients rapport à la consommation. Et comme tu marches sur tous les courants, des fois tu fais sauter mes plombs. Mais tu dis...
Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
Alors vous savez, quand la décision a été prise dans le quinquennat de François Hollande de fermer Fessenheim, la poursuite de l'activité n'était pas possible.
Avec l'accélération du réchauffement climatique et l'invasion de l'Ukraine, le nucléaire à la cote.
Aujourd'hui, à cause du retard qu'on a pris dans le développement et les investissements pour les énergies renouvelables, nous n'arrivons plus à nous passer du nucléaire.
Le nucléaire évoque plein de halos symboliques. Il évoque le halo symbolique du militaire, de l'autorité de l'État, même de la croissance.
Il y a deux choses qui peuvent mettre un terme à la vie sur Terre. Le réchauffement climatique et le nucléaire.
Les centrales nucléaires ont besoin d'eau froide en continu pour fournir la vapeur qui permet de faire tourner les turbines. Alors, lorsque cette ressource vient à manquer, comment fait-on ?
On n'a pas le droit de laisser aux générations futures un fardeau aussi lourd avec des déchets aussi ingérables qu'on va continuer à empiler.
En fait, malheureusement, on arrive à une époque où tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de l'arbitrage de risque. Et donc, je ne comprends pas pourquoi, en ce qui concerne le nucléaire, on n'accepte pas de rentrer dans ce raisonnement risque-bénéfice.
Mais même si tu dois tout faire sauter, fais-moi de l'électricité.
J'ai été peut-être 10 fois dans une centrale nucléaire, 10 fois on m'a expliqué... Mais au bout de 5 minutes, j'étais largué. Voilà. Non, je connaissais suffisamment pour prendre des décisions.
Et c'était une illustration sonore introductive à notre thème fort à propos réalisé par JC, toujours de notre groupe local Alternativa à Villefranche. Et cette intro me permet de lancer avec vous la conversation Ange Potin sous un angle un peu plus philosophique. On a entendu parler de halo symbolique, mais aussi d'arbitrage de risque. Et vous, dans votre ouvrage, donc le nucléaire imaginé, vous parlez un peu de cet imaginaire hors sol que porte le nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette notion ?
Oui. Oui, en effet, c'est vrai que c'est intéressant de... de parler de halo symbolique et de la manière dont le nucléaire se soustrait à l'arbitrage de risque. Alors là, dans le montage que vous avez passé, bah, c'est Jean Covici qui parle de ça. Bon, plutôt pour dire que voilà, les opposants au nucléaire ne font pas de l'arbitrage de risque, mais en fait, ça s'ancre dans une pratique de l'industrie elle-même d'exceptionnaliser le nucléaire, d'en faire quelque chose qui est complètement en dehors de... qui dépasse, on va dire, toutes les formes de comparaison. Et notamment, c'est quelque chose qui s'est mis en place dès l'après-guerre, hein, ce régime exceptionnel et cet imaginaire exceptionnel qui entoure le nucléaire, qui s'est mis en place dès l'après-guerre et qui a fourni les ressources imaginaires qu'on reprend aujourd'hui, hein, dans le cadre de, voilà, des annonces de relance du nucléaire. C'est-à-dire que cet imaginaire d'un nucléaire hors sol, je vais en dire un petit peu plus dans quelques secondes, mais cet imaginaire-là, en fait, il est plus ancien qu'une forme de greenwashing, hein, récent.
C'est ça, il était là depuis le début même.
Qui apparaît dès les années 40-50 et qui est repris aujourd'hui, qui trouve une nouvelle formulation aujourd'hui en contexte de, voilà, de ce qu'on appelle généralement l'urgence climatique ou de ce qui est cadré comme l'urgence climatique. En fait, cet imaginaire-là, moi, je le trace à partir des années, voilà, des années 1950 et du début du déploiement industriel du nucléaire en France à cette époque-là, dans l'idée que le nucléaire, en fait, permettrait d'obtenir une très grande énergie, très concentrée, hein, ça a une concentration énergétique bien supérieure aux combustibles fossiles, et que ça permettrait d'obtenir cette énergie dans un milieu artificiel intégralement clos, qu'est celui du réacteur, ou celui du système technique dans lequel s'inscrit le réacteur, et qu'est un système technique qu'on tend à représenter comme étant indépendant de la croûte terrestre dans laquelle il est inscrit, et dans laquelle eh ben, il est vulnérable, exposé à tout un ensemble d'agressions extérieures possibles. Là, dans le montage, on a parlé notamment du refroidissement en eau, qui est un gros enjeu. Hein.
On nous propose ça comme quelque chose de une représentation très technologique, très hors sol, très en dehors de ce que finalement nous citoyens vivons autour, pouvons avoir accès finalement. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas et qui ne nous met pas en danger.
Oui. Alors, la question de la démocratie technique, ça a été en effet un gros angle hein, sur lequel le nucléaire a été critiqué à partir des années 1970. Ouais, faut remarquer aussi que le nucléaire est pas le seul à ne pas pratiquer de la démocratie technique sur les choix énergétiques. Hein. Le pétrole se soustrait beaucoup plus facilement depuis longtemps à ces questions-là. Mais c'est vrai que le nucléaire, parce que est lié également à une technocratie d'État qui est assez similaire à celle du pétrole par ailleurs, mais a été très attaqué sur cet aspect-là. Et puis là, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, hein, c'est que après une décennie de doutes, de difficultés et de très relative ouverture, parce qu'il y avait quand même eu les débats publics sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, qui avait ouvert 2-3 lucarnes sur certaines questions et voilà d'autres choses comme ça. Bon, là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un regain d'autoritarisme sur la gestion du nucléaire, hein, avec des décisions qui émanent assez directement de l'Élysée ou du Conseil de politique nucléaire qui est en partie à l'Élysée et qui a annoncé notamment récemment la relance du retraitement dans le Cotentin. Enfin, donc là, il y a un retour d'autoritarisme qui reprend lui aussi un registre assez ancien, hein, on va dire, de cette technologie d'héritage gaullien, quoi, dans la structure de l'État français, et qui s'allie avec une forme d'autoritarisme néolibéral qu'on est habitué du macronisme actuel.
Et justement, dans votre bouquin, dans votre livre, vous parlez de capital fissile. Et vous dites que ce nucléaire imaginé a permis un passage du capital fossile au capital fissile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu pourquoi d'abord, qu'est-ce que vous entendez un petit peu par ce capital fissile et en quoi cette notion permet finalement de faire passer cette énergie comme une solution face à l'urgence climatique et à la nécessité d'avoir une énergie décarbonée?
Oui, capital fissile, donc c'est un concept que j'essaie de forger que je propose dans le livre pour essayer de rendre saillant les dimensions conceptuelles et philosophiques et l'imaginaire qui travaille la stratégie économique et industrielle du nucléaire en France, qui a été assez tôt donc animé dès les années 1950, motivé et mobilisé par cette idée que la mobilisation hein, de l'énergie libérée par la fission de l'uranium en réacteur pourrait remplacer la combustion des fossiles comme fondement de la croissance économique. C'est ça l'idée du capital fissile, ce qui n'a jamais été le cas, hein, même en France, mais qui a joué un rôle important pour mobiliser des investissements, pour convaincre d'abord en interne lancer un plan d'investissement dans le nucléaire et aussi pour mobiliser des marchés à l'international, ce qui avait toujours été un gros enjeu pour l'industrie française. Et en fait, cette idée est tissée d'imaginaire. C'est l'idée d'un investissement sur territoire national qui se traduirait en une énergie propre et indépendante, enfin obtenue de manière indépendante, donc permettrait de rapatrier la fourniture énergétique sur le territoire national, comme si les investissements dans l'infrastructure créaient des petits puits énergétiques dont on tirerait une énergie très concentrée et propre. Et en fait, c'est cet imaginaire-là qui a été très important dans le contexte des années 50, 60, 70, dans le cadre de l'argumentaire du nucléaire pour l'indépendance nationale et pour la reconstruction de l'identité nationale française aussi, et qui aujourd'hui reprend d'une part cet argumentaire de l'indépendance nationale en contexte de gros temps géopolitique, et s'associe l'argumentaire du nucléaire comme moyen de maintenir la croissance économique en contexte de réchauffement climatique, à la fois lutter contre le réchauffement climatique, tout en permettant soit de continuer la croissance économique, soit pour d'autres d'amortir la décroissance. Mais c'est toujours cette idée-là.
Et on a très peu finalement de discours qui couplent l'énergie nucléaire avec des questions de sobriété ou de diminution justement de ce volume d'énergie dont on aurait besoin.
Oui, et ça, je pense que c'est une des parties de l'argument du livre, que de dire que le nucléaire a permis de penser une croissance continue de l'économie à un moment où, à partir des années 60-70, commence à émerger de sérieux doutes sur la possibilité matérielle de maintenir une croissance au même rythme que celle qui a été celle de l'après-Seconde Guerre mondiale.
Et du coup, comment vous expliquez encore que malgré... Enfin, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup dans les discours, mais même mainstream, c'est-à-dire même dans les journaux principaux, des discours sur le volume des terres rares disponibles dans le monde entier et la nécessité d'aller s'approvisionner en Afrique centrale. On voit quand même des discours sur la difficulté d'approvisionnement, en tout cas la dimension plutôt sécuritaire dans des pays d'Afrique centrale sur la matière première pour produire du nucléaire. On entend aussi régulièrement des scandales sur les coûts faramineux exorbitants de toutes ces infrastructures justement qui nous sont vendues pour pas cher et qui nous coûtent 10 ou 20 ou je sais plus combien de fois le prix. Donc ça, on entend ces discours-là. Et malgré ça, cet imaginaire continue de fonctionner d'une énergie décarbonée faisant partie de la solution de la transition écolo. Il est où ce paradoxe ? Enfin, comment ça se fait, quoi ? Comment on peut expliquer ça ?
Oui, je pense que... Oui, alors là, parce que vous avez mentionné les terres rares, donc je pensais qu'on partait sur autre chose. En fait, je veux juste dire que le nucléaire n'est pas le seul à s'appuyer sur un imaginaire déterrestré. C'est très visible dans le nucléaire, en fait. C'est pour ça que c'est assez fascinant à étudier. Mais les questions d'approvisionnement et de fragilité et d'investissement de rentabilité incertaine, elle se pose sur les autres sources d'énergie aussi, qui ne sont pas sans poser de problème. Après, je pense que le nucléaire, en effet, c'est assez frappant. Quand j'ai commencé à faire et puis d'autres, on a été toute une génération de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs à commencer à travailler sur le nucléaire au milieu des années 2010, donc était au moment, après l'époque de la faillite d'Areva, de l'après-Fukushima, c'était... Ça allait vraiment pas fort et c'était pensable en fait que le nucléaire, c'était quelque chose du passé quoi, à ce moment-là. Et là, il y a un regain assez spectaculaire autour du nucléaire, donc qui est toujours quelque chose à documenter et à expliquer. On est assez surpris en fait de l'ampleur ce regain qui n'est pas uniquement en France, qui est quelque chose de très qui prend aussi dans des pays qui n'ont pas développé de programmes électronucléaires, qui prend sur des technologies qui sont différentes, hein, les petits réacteurs modulaires,
oui,
qui changent un peu la donne en fait de la. Enfin, c'est l'idée aussi d'un nucléaire sans centralisation d'État. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui apparaissent en ce moment. Donc c'est assez impressionnant, hein, ce retour en grâce du nucléaire. Après, à voir ce que ça va donner effectivement, parce que entre le moment où on annonce la relance et le moment où on construit des réacteurs qui fonctionnent. Il y a quand même un monde.
Et c'est justement une des questions qui est un peu formulée à l'encontre du discours qui est porté aujourd'hui assez fortement dans les médias par Jean-Marc Jancovici, qui arrive à faire passer le nucléaire comme une partie de la solution pour sauver le climat, en tout cas pour permettre une transition énergétique. Cet élément, on sent bien que là, il y a quelque chose aussi qui finalement permet d'éviter la discussion plus compliquée ou en tout cas qui nous remet tous en question sur nos modes de vie et sur finalement cette croissance énergétique sans fin.
Mmh. Oui. Et après, par ailleurs, enfin, le Jancovici, c'est un arbre qui cache une forêt. Enfin, l'argumentaire, le nucléaire comme faisant partie du mix futur, hein, c'est aussi, bon, on retrouve ça dans pas mal de discours de défense du nucléaire. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en même temps, le nucléaire est quand même plus humble aujourd'hui que dans les années 70. Hein. Il n'y a plus cette idée que le nucléaire va remplacer à lui seul les combustibles fossiles, mais qu'il va devoir faire partie d'un système énergétique et s'inscrire là-dedans. Après, oui, en effet, enfin, je veux dire, d'asséner ça, enfin, il y a un retour aussi de, et le terme a été utilisé plutôt, de technosolutionnisme, qui est très simpliste, quoi. De, bon, bah, voilà, on fait du nucléaire pour nous sauver. Puis, par ailleurs, c'est bien, en France, on a déjà pas mal de centrales. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, en fait, ce qui disparaît de cet argumentaire simplifiant, voire simpliste, c'est que, c'est l'existence d'un parc nucléaire qu'il va falloir démanteler, en fait. Ce fait massif, en fait, d'une très grande quantité de déchets, alors pour beaucoup de faibles activités, mais qui sont quand même très encombrants, qui vont coûter énormément d'argent, prendre énormément de temps, demander énormément d'efforts. Il y a quelqu'un qui connaît bien le site du Bugey. Bah, par exemple, la centrale graphite-gaz qu'il y a sur le Bugey, il y a une vieille centrale qui doit être démantelée, qui commencera peut-être à être démantelée au début des années 2050, qui prendra jusqu'en 2100, enfin, qui fait partie de ces centrales dites de première génération. Voilà, c'est tout cet héritage résiduel-là, qui est un fait matériel massif, qui est un fait politique massif, qui est quelque chose qui gagnerait grandement à entrer dans les discussions et dans la démocratie technique autour de ces questions-là. Là, est complètement... presque complètement occulté par ces discours de relance et par ce retour en force de l'imaginaire d'un nucléaire hors sol.
Et est-ce que vous n'avez pas l'impression, en ayant travaillé profondément sur ces questions-là, que justement la négation de ces faits matériaux, finalement, on l'entend beaucoup dans tout ce qui est aujourd'hui ce changement de paradigme qu'on devrait avoir pour changer le système et pas le climat, qui est le motto d'Alternatiba. Mais finalement, on l'a là, cette construction d'un nucléaire imaginé, on l'a aussi dans... Enfin, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels le fait matériel est complètement nié. Est-ce que là, finalement, le nucléaire ne fait pas partie d'une vision beaucoup plus globale qui est l'impensable de la transition énergétique et d'une fin du monde de consommation et de productivisme ?
Ah oui. Alors ça, je suis très d'accord avec ça. Et c'est ça, en fait, c'est en ça que je me suis intéressé au nucléaire. Enfin, moi, je suis pas un anti-nucléaire dans le sens où je pense que c'est intrinsèquement beaucoup plus dangereux que d'autres technologies. Ça pose des questions que d'autres technologies ne posent pas, mais voilà, c'est bon. Mais par contre, je trouve que, et notamment en France, parce qu'on est un pays qui a énormément misé là-dessus, ça rend visible des tendances qui travaillent de manière plus transversale l'école et l'industrie. Et moi, notamment, je me suis intéressé, dans le cadre de ma thèse et donc à alimenter ce livre, à l'idée de cycle du combustible fermé, qu'est l'idée qu'on pourrait réutiliser le combustible irradié sorti des centrales pour alimenter les centrales de l'avenir, quoi. Et donc, à terme, faire de l'énergie sans avoir besoin de la croûte terrestre. Bon, c'est une idée de clôture du métabolisme industriel qu'on trouve dès la chimie industrielle du 19e siècle et qu'on retrouve dans certains discours de l'économie circulaire aujourd'hui, hein. Bon, l'économie circulaire, c'est un domaine qui est très vaste et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a certaines conceptions de l'économie circulaire qui reprennent cet imaginaire prométhéen d'une manière qui rappelle les ingénieurs nucléaires des années 70 dans leur grand enthousiasme de l'époque. Et voilà, à un moment dans le livre, je cite un rapport de Apple de 2022 qui parle de, eh bien, grâce à l'économie circulaire, produire sans rien extraire de la croûte terrestre. Donc, quand Apple dit ça, c'est vraiment déconcertant. Et ce qui se joue, c'est l'idée que le déchet va disparaître, hein, qu'il n'y a pas de déchet parce que c'est que des choses qui vont être réutilisées. Donc, c'est une manière très frappante de nier l'héritage matériel très pesant de la production industrielle.
Ben merci beaucoup pour tout cet éclairage. On recitera tout à l'heure votre ouvrage pour pousser là-dessus. Un grand merci de vous être rendu disponible ce soir avec nous. Et on aura l'occasion, j'imagine, de rediscuter bien ensemble.
Merci beaucoup.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femelle aux enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une onze centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour cent millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, met tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre.
Calade.
Et c'était la fée électrique, Maracas. On continue cette émission Calade. Alors on change ce soir avec Paulet. Bonsoir.
Bonsoir. Rebonsoir.
Militant donc de sortir du nucléaire, Buget. Et l'idée après cette mise en perspective que nous a fait Ange Potin sur le nucléaire imaginé, l'idée était plutôt de se reconcentrer un peu sous un angle terrain-terrain avec les perspectives annoncées sur la filière en France et notamment parler d'abord de cette centrale du Buget à quelques kilomètres d'ici, pas très loin de Lyon, 40 km de Lyon, 120 km de Genève. Donc on est vraiment en proximité. Une très vieille centrale. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ange Potin nous parlait d'un démantèlement qui allait courir jusqu'en 2100.
Oui, alors effectivement, la centrale du Buget, c'est même la plus vieille centrale de France depuis la fermeture de Fessenheim, puisque maintenant la centrale du Buget est entrée en activité en 1972 avec la tranche de Buget 1, donc graphite gaz à laquelle faisait allusion Ange Potin, qui est donc effectivement qui aurait dû être en cours de démantèlement, mais finalement, elle n'est toujours pas en démantèlement parce qu'EDF ne sait pas vraiment démanteler les vieux réacteurs. Donc, en plus, c'est une autre filière. Et puis, les autres réacteurs qui datent de 78 et 79, donc, font de la centrale du Bugey la plus vieille centrale de France, effectivement. C'est la doyenne. Alors, on est même plus près que ça au niveau des distances à vol d'atomes, hein, je dirais. Ouais. De Lyon, on est même à 30 km et Genève, on est à 70 km. Donc, les Genevois, hein, le canton de Genève, est d'ailleurs très concerné et a plusieurs fois fait des recours en justice contre la centrale du Bugey, parce qu'en plus il faut savoir qu'à Genève, il y a dans la charte de Genève, il y a une clause, ils sont anti-nucléaire, ils sont contre le nucléaire.
Donc, alors qu'ils seraient les premiers, enfin ils feraient partie possibles potentielles victimes, tout comme les Calais.
Ben oui, c'est le problème de ces centrales qui sont d'ailleurs en bordure de territoire. Hein. C'est la même chose qu'à Fessenheim, où les Allemands étaient très concernés par Fessenheim, d'ailleurs largement aussi concernés que les Français. C'est le même problème que la centrale à chaud, etc. Donc oui, ces centrales, et on sait très bien que le nuage radioactif ne s'arrête pas aux frontières. On commence à le comprendre maintenant, depuis 1986. Mais oui, effectivement, c'est un vrai souci, ces centrales qui vont impacter au niveau de l'Europe. Et puis, il y a le problème des vents.
Alors, quelle est la situation de la centrale aujourd'hui ? Elle tourne ? Elle tourne beaucoup ? Elle tourne pas beaucoup ? Elle fait partie de ces centrales qui sont à moitié arrêtées ?
Alors, elle tourne beaucoup, mais avec beaucoup d'arrêts de tranche. Il y a toujours beaucoup de problèmes d'incidents, d'avaries, plus ou moins graves. C'est jamais des accidents. De toute façon, c'est toujours classé 0 ou 1 sur l'échelle INES. L'échelle INES, c'est une classification des événements. On appelle ça les événements. EDF a ce joli mot pour parler d'événements pour parler des accidents, sachant que c'est gradué de 0 à 9, et 9, c'est donc Tchernobyl et c'est Fukushima. Et bah oui, il y a beaucoup de problèmes techniques, notamment des problèmes de vannes qui se referment de manière intempestive ou qui s'ouvrent alors qu'elles devraient être fermées, etc. Donc, il y a des problèmes de fuite de tritium. Il y a eu 5 fuites de tritium en quelques années à la centrale du Bugey. D'ailleurs, on a, avec le réseau sortant du nucléaire, le réseau national, on a porté plainte pour mise en danger d'autrui. Et d'ailleurs, EDF a été condamné.
Donc c'est... vous arrivez à obtenir des condamnations juridiques.
Oui, ouais, on obtient des condamnations. Alors après, ça reste, je dirais, de l'ordre du symbole, parce que c'est quelques milliers d'euros. Et donc après, on va dire que c'est surtout la satisfaction de faire admettre au grand public qu'EDF, en fait, fait prendre des risques à la population. Après, la centrale continue à fonctionner. Et puis là, on est parti sur 50 ans. EDF veut même aller sur 60 ans. Donc, de toute façon, à moins d'un événement, je reprends le terme d'EDF, un événement grave, la centrale, elle a encore de beaux jours devant elle, malgré tout. Et puis, en ligne de mire, par rapport au futur, bien, il y a ce projet. Donc,
voilà, de nouvelles installations.
Voilà, les nouveaux réacteurs EPR. Oui, tout à fait.
Et donc, le Bugey a été choisi comme un des sites possible ou bien...
C'est acté maintenant. Acté. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on savait que EDF préemptait des terrains autour de la centrale. Ça faisait des années qu'on avait des retours comme quoi, effectivement, les gens étaient démarchés. Et dans les années 2019-2020, on a commencé à interpeller donc EDF lors des CLI, les commissions locales d'information. Hein. C'est des grandes réunions publiques où la population est invitée donc, à interroger. Donc,
Est-ce qu'il y a du monde qui vient ?
Oui. Alors, oui, il y a du monde. Ouais, faut reconnaître qu'il y a du monde. Alors après, il y a du monde, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément beaucoup de personnes critiques, mais il y a du monde, ouais, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plus d'une centaine de personnes. Oui, donc les gens sont quand même concernés.
Et cherchent de l'information.
Ouais. Après, c'est compliqué. Alors, ils cherchent de l'information, mais en face, on a surtout de la communication. Ouais. C'est-à-dire que c'est très compliqué, malgré tout, d'aller chercher, d'avoir des réponses vraiment qui soient, on va dire, les réponses attendues. C'est toujours tout va bien, circuler, quoi.
Donc, on discutait juste avant, vous étiez là en studio, on écoutait Ange Potin qui parlait d'imaginaire. Là aussi, est-ce qu'on n'a pas finalement... est-ce que vous ne le vivez pas, cet imaginaire, enfin l'incarnation de cet imaginaire d'un nucléaire sans trop de risques, désincarné du sol et désincarné finalement de son environnement, de l'emprise terrestre, économique, vivant qui peut avoir sur le Bugey ?
Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le nucléaire bénéficie comme ça d'une sorte d'image, d'énergie un peu, on va dire, parfaite. Et effectivement, il a ce terme dans son livre déterrestré, je crois, donc effectivement qu'il ne serait pas soumis aux aléas, à des aléas soit, on va dire, environnementaux ou de météo. Et il y a comme cette idée comme ça d'énergie un peu magique, quoi. Mmh. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que le nucléaire est très tributaire de beaucoup d'éléments. Bon, déjà, il faut de l'uranium, accessoirement. Et on nous parle toujours d'indépendance énergétique. Et il n'y a aucune indépendance énergétique avec le nucléaire. Enfin, je veux dire, c'est une hérésie. Et c'est marrant, on est vraiment dans ce discours dominant qui est repris en boucle par les élus. Alors, tous les élus du département de l'Ain sont archi pro-nucléaire parce que voilà, c'est super, quoi. C'est la vitrine française, c'est la relance de l'industrie, ça crée de l'emploi.
On en parlera justement.
On en parlera, bien sûr. Mais il y a quand même cette idée d'indépendance énergétique et que le nucléaire, effectivement, c'est l'énergie permanente, ça ne s'arrête jamais, c'est pas soumis aux caprices du temps. Alors qu'en fait, d'une part, il faut de l'uranium. Et l'uranium, bah, il vient des pays comme le Niger. Hein, le Niger, ça pose quand même question, quoi. Hein. Ça vient du Kazakhstan, ça vient d'Australie. Donc on n'est absolument pas indépendant du point de vue énergétique. En plus, il faut voir dans quelles conditions le minerai d'uranium est extrait dans les mines. C'est terrible ce qui se passe à Arlit. Hein. Vous allez à Arlit au Niger, il y a une pollution sans nom. Et puis, qu'est-ce qui est exposé? C'est les populations locales. Il faut voir effectivement le début, puis après, il faut voir après ce qui se passe au niveau des déchets. Donc, la gestion des déchets sur les prochains millénaires, on en parlera peut-être après, à Bure, ça pose question aussi. C'est-à-dire qu'il y a tous ces problèmes de déchets, on ne sait pas que faire. Ils s'entassent en ce moment à La Hague. Donc, il y a tout ça. On a lancé le programme électronucléaire dans les années, effectivement, 60-70, en pensant qu'on avait trouvé des solutions entre-temps. Et en fait, on n'a pas de solution. Et c'est comme le démantèlement, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on trouverait des solutions, et en fait, on ne sait toujours pas démanteler un réacteur. Et puis, par rapport à cette idée du nucléaire comme énergie, comme ça, parfaite, il y a le problème de l'eau. Ange Potin en parlait tout à l'heure, mais le nucléaire sans eau ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on a encore vu, lors des deux derniers étés 2022-2023, le Rhône, dont le débit va considérablement baisser dans les années à venir.
Ça, le gouvernement le dit, ce sont des études du Sénat qui disent...
On se rappelle quand même des étés qu'on a passés. Quoi. Ça veut dire que le nucléaire, il est soumis à ces baisses en approvisionnement en eau. Et donc, la centrale nucléaire du Bugey, si elle n'a pas assez d'eau... les réacteurs ne sont pas refroidis correctement. Et si un réacteur n'est pas refroidi, c'est la crise majeure. Et donc, l'été dernier et l'été 2022, la centrale du Bugey, elle a fonctionné à coup de dérogation, c'est-à-dire qu'on a permis à EDF de rejeter de l'eau chaude dans un Rhône qui était déjà chaud, donc au détriment de la faune et de la flore. Ou alors, à ce moment-là, s'il n'y avait pas assez d'eau, on a arrêté les tranches. Donc, le nucléaire n'est pas...
Quand vous dites qu'on a arrêté les tranches, vous pouvez nous expliquer?
Oui, c'est-à-dire qu'on fait des arrêts de fonctionnement des réacteurs parce qu'effectivement, à un moment, les conditions ne sont pas réunies pour fonctionner en toute sûreté.
Et c'est pour ça qu'il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, on avait un nombre incroyable de centrales qui étaient à l'arrêt, notamment pour des questions climatiques.
Alors, vous faites peut-être allusion aussi au problème de corrosion sous contrainte. C'est-à-dire que, effectivement, pendant plusieurs mois, il y a beaucoup de réacteurs, une vingtaine même au moment le plus fort, où on s'est aperçu qu'il y avait un problème de corrosion sous contrainte, donc des problèmes techniques au niveau des réacteurs eux-mêmes. Mais ce n'était pas lié à l'eau, ça. C'était encore un autre souci. Et donc, effectivement, pendant plusieurs mois, le parc électronucléaire a été amputé de quasiment un tiers de ces réacteurs. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le pays n'a pas été plongé dans le noir. On a trouvé des solutions. Alors, pas forcément, on va dire, éthiquement écologique, et peut-être que du point de vue financier, ça a coûté, c'est possible. Mais en tout cas, la démonstration avait été faite avec cet épisode de ce problème de corrosion sous contrainte que, du coup, on pouvait arrêter beaucoup de réacteurs et que la France n'était pas plongée dans le noir. Et d'ailleurs, beaucoup de Français, d'ailleurs, ne savaient même pas que les réacteurs étaient arrêtés. Donc, ça montre aussi, on a eu la démonstration indirectement que finalement, peut-être qu'on pouvait non pas continuer à construire des réacteurs, mais on pouvait commencer peut-être à en fermer. Voilà, ça c'est une petite remarque en passant.
Et dans la construction de sur le site du Bugey, vous dites qu'il y a cette EPR2 qui vont être construits. C'est la nouvelle emprise sur sol, c'est encore des ressources locales qui sont prises, notamment sur l'eau.
Là, en gros, c'est EDF a préempté. Le site actuel du Bugey, c'est 150 hectares, et donc EDF va doubler ce terrain. Okay. Voilà, donc pour implanter donc deux EPR, donc c'est deux nouveaux réacteurs qui sont d'une puissance à peu près de 1600 mégawatts, c'est-à-dire Un EPR, c'est quasiment l'équivalent de deux anciens réacteurs. Okay. Voilà. Et puis, avec un rendement légèrement au-dessus, donc c'est un peu plus, il y a un peu plus de rendement, mais on est quand même en dessous de 40%. Et puis, après, derrière, il va falloir construire des tours aéro-réfrigérantes qui sont beaucoup plus hautes que qui sont là actuellement. Donc oui, il y a une emprise énorme, surtout qu'EDF s'est rendu compte que le sous-bassement actuel de ces terres qui sont... préemptés, enfin qui vont être là où seront construits les réacteurs, ne seront pas à même de recevoir les EPR. Il va falloir changer le terrain pour que ça soit beaucoup plus solide et beaucoup plus à même de supporter la charge. Donc, okay. Donc en termes d'impact, oui, ça va être énorme. Ouais. Ça va être énorme. Voilà.
Est-ce que dans cette... vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des réunions avec la population. Est-ce que ça ressemble plus à de la com que de l'information? Est-ce qu'il y a un peu de participation? Est-ce que c'est un gros mot? Est-ce que à un moment, il y a des ateliers de réflexion ou bien des ateliers d'imagination de ce que pourrait être le développement de ce site de manière différente?
Ces commissions locales d'information, c'est des moments qui sont extrêmement maîtrisés, très contrôlés. Donc, en fait, ça donne l'apparence d'une participation démocratique, mais en fait, ça n'en a que l'apparence. C'est-à-dire que c'est vraiment de la com. Et en plus, comme ces CLI ont lieu souvent à Saint-Vulbas, enfin, en tout cas, très près de la centrale, c'est extrêmement compliqué d'avoir un discours critique avec une population qui est quasiment toute acquise à la cause nucléaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué d'avoir un débat constructif et serein.
On touche là au côté plus emprise économique.
Oui, mais clairement.
Voilà.
Clairement.
Aujourd'hui, la centrale, elle fait vivre... autour d'elle, elle fait vivre la population.
C'est ça, clairement. Donc, en plus, quand il y a des arrêts de tranches et qu'effectivement, EDF va embaucher encore plus de sous-traitants pour faire intervenir les gens sur le site, c'est peut-être 3-4 000 personnes. Donc, c'est énorme. Et donc, tout le monde a autour de lui quelqu'un qui travaille à la centrale ou quelqu'un qui a travaillé. Les élus sont souvent des anciens d'EDF. Donc, en fait, il y a vraiment comme ça, on va
un
dire...
Un écosystème nucléaire.
Clairement. Après, il y a toujours ces arguments qui reviennent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nucléaire ou la bougie. Le nucléaire, c'est l'énergie décarbonée. Et puis, c'est quand même la vitrine de la France. Et on ne peut pas faire autrement. Et voilà. Et après, vous avez qu'à pédaler. Donc, en fait, on est toujours dans ces schémas de discussion. Et c'est très compliqué d'en sortir. Et quand on pointe ces problèmes, notamment de l'eau.
Ouais.
Effectivement, on nous dit l'éolien a besoin de vent et quand il y a pas de vent, les éoliennes ne tournent pas. Le solaire a besoin de soleil, mais quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production. Et on croit qu'effectivement que le nucléaire fonctionne tout le temps. En fait, la centrale du budget, elle fonctionne vraiment par intermittence. Il y a beaucoup, beaucoup d'arrêts de tranche, donc ce n'est pas du tout permanent. Et en plus, même en fonctionnement dit normal et sécure, si tant est que ça soit sécure, il y a énormément de fuites. Et en plus, il faut recharger. Il y a des périodes où il faut recharger le combustible, donc ça s'arrête. Donc en fait, c'est tout sauf permanent. Et en plus, il y a ce problème de l'eau. Je voudrais juste revenir sur le problème de l'eau, parce que c'est vraiment essentiel pour revenir sur la centrale du budget. La centrale du budget, actuellement, il y a 4 réacteurs qui tournent, donc plus ou moins. Donc le réacteur 2 et 3 qui sont refroidis directement par le Rhône et donc qui rejettent directement l'eau réchauffée dans le Rhône, réchauffée et polluée. Parce qu'on parle toujours du nucléaire comme énergie décarbonée, mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a tout un tas de polluants qui sont rejetés par l'industrie nucléaire. Et puis, vous avez le réacteur 4 et 5 qui sont reliés aux 4 tours qui, elles, donc, relâchent la vapeur d'eau dans le ciel. Alors, dans le premier cas, 2 et 3, l'eau du Rhône est réchauffée donc, par la centrale. Donc, il y a un impact clair avec des polluants, sachant que la centrale, elle est au-dessus de la zone de captage de Crépieux qui va alimenter donc, l'eau potable pour Lyon. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, les réacteurs 4 et 5, ils rejettent donc des millions de mètres cubes d'eau dans le ciel. Donc, effectivement, ça n'a pas d'incidence sur le Rhône. Mais du coup, ces millions de mètres cubes d'eau, c'est de l'eau perdue. C'est-à-dire qu'à un moment où on nous dit de faire des économies d'eau, notamment l'été, il faut savoir que le nucléaire va gaspiller. Enfin, on va prélever donc ces millions de mètres cubes qui repartent dans l'atmosphère. Alors on va nous dire, mais après, ils retombent sous forme de pluie. Mais oui, sauf qu'en fait, c'est quand même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que quand la nappe phréatique, elle est au plus bas, cette eau, elle part quelque part, mais elle ne va pas dans la nappe phréatique. Donc, juste pour l'année 2021, c'est quand même 18 millions de mètres cubes d'eau qui sont repartis à cause des réacteurs 4 et 5. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et c'est vrai que ce problème de l'eau, c'est un enjeu crucial pour les décennies à venir.
Et là, discuter ça avec vos interlocuteurs, c'est un dialogue de sourds. Enfin, là encore, on est dans le fait matériel qui est complètement invisibilisé ou en tout cas imparlable avec l'adversaire.
Mais oui, parce qu'en fait, mais autant de notre côté anti-nucléaire que du côté des pro-nucléaires, on est très vite sur un débat qui est très passionné. Faut reconnaître, hein, très vite, on est dans l'affect. Et il y a un côté quand même chez les gens qui travaillent à la centrale ou qui vivent autour de la centrale, très affectif. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'affect. Et cette centrale, elle fait partie du paysage. Et il y a un côté, il faut pas y toucher, quoi. Mmh. Hein, on peut pas y toucher. Mmh. Et en fait, très vite, on tourne en rond. Alors après, on nous oppose.
Est-ce que là, on n'est pas justement dans cette visibilisation de finalement un changement bien plus profond que la question nucléaire ou pas nucléaire?
Oui. Puis d'ailleurs, on nous dit souvent, mais maintenant, les voitures vont toutes être électriques. Donc vous allez, comment vous allez les faire tourner vos voitures électriques?
Voilà.
Donc du coup, on va créer un besoin. Donc après, il va falloir créer plus d'électricité. Donc il faut des EPR. Enfin, c'est une logique imparable. Et puis il y a ce discours dominant comme ça qui revient, alimenté par des gens comme Jean Covici. Et c'est vraiment cette musique de fond, cette petite musique de fond contre laquelle c'est très compliqué d'aller.
Sur laquelle il faut une force de communication qu'on n'a pas forcément de côté des associations. Sortir du nucléaire est farouchement opposé à la stratégie de ces nouveaux parcs de réacteurs. On a parlé de l'eau, on a parlé de compétences sur le fait qu'on ne savait pas finalement, tu disais, démanteler aujourd'hui, alors qu'il y a 30 ans, on se disait on saura dans 30 ans, et là aujourd'hui on y est et on ne sait pas. Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Et je voudrais notamment parler peut-être des retours sur expérience que vous pouvez avoir récoltés sur des EPR actuellement en service en Chine ou en Finlande. Est-ce qu'il y a des choses où le coût à Flamanville, qui est extraordinaire, la position de sortir du nucléaire, elle s'appuie sur tous ces éléments. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on aurait oubliés ou sur lesquels... Tu voudrais revenir ?
Ah oui, alors du coup, oui, c'est vrai qu'il faut quand même parler de l'EPR de Flamanville. C'est compliqué d'avoir des informations fiables sur les EPR qui sont construits, enfin, ou qui viennent d'entrer en service en Finlande ou en Chine. On sait, par exemple, qu'en Chine, il y a un des deux réacteurs de Taishan qui a été arrêté très vite. Alors après, avec la Chine, de toute façon, c'est très compliqué d'avoir des informations. C'est déjà compliqué avec le nucléaire, mais alors en plus, nucléaire avec la Chine, c'est très opaque. En Finlande, il y a eu des problèmes très vite aussi au démarrage sur des problèmes de vannes aussi qui n'étaient pas opérationnels. Donc on a peu d'informations. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'en France, cet EPR de Flamanville 3 qui aurait dû démarrer en 2012, qui était prévu pour
il y a 12 ans déjà,
qui était pour un coût initial de 3,4 milliards, est passé après à 6, après à 9. Après, on a grimpé à 10, quasiment à 20 milliards d'après la Cour des comptes. Donc en fait, il y a un surcoût qui est phénoménal.
De 3 à 20.
Alors l'argument financier, c'est un argument, hein, moi que je ne réfute pas. Mais je dirais, si c'était que financier, je ne sais même pas si je serais anti-nucléaire. Mais bon, c'est une raison. Enfin, il y a en tout cas un gaspillage des fonds publics qui est terrible. On se dit, mais actuellement, on nous parle de faire des économies. Et là, on gaspille de l'argent par milliards. Et après, c'est la logique de l'absurde. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, on a tellement investi, ben, on ne peut plus faire machine arrière, quoi. Mmh. Et puis après, il y a un enjeu, il y a une sorte de sursaut d'orgueil, quoi. Parce que malgré tout, le nucléaire, c'est la France, quoi. Donc, on ne peut pas lâcher, même si le couvercle, on sait que le couvercle est déjà défaillant. On sait que le couvercle de l'EPR de Flamanville, il ne pourra faire qu'un cycle de 18 mois. Il faudra le démonter. Il faudra le démanteler. C'est-à-dire qu'on va démarrer l'EPR de Flamanville peut-être fin 2024, en 2025. Et le couvercle, il faudra l'enlever au bout d'un an et demi. Donc, avec tout ce que ça génère en termes de pollution,
de déchets, de coûts.
Et on sait aussi que sur l'EPR de Flamanville, il y a un nombre de malfaçons, il y a un problème sur les soudures qui a été pointé à plusieurs reprises. Et donc, alors on nous dit, oui, mais ça va nous servir de retour d'expérience. Et donc, les prochains EPR, on ne fera pas les mêmes erreurs. C'est vachement rassurant, hein, comme technique. Donc, nous, effectivement, c'est vrai qu'on ne veut pas d'EPR à budget. Et c'est très compliqué. Parce qu'en plus, avant que M. Macron fasse l'annonce officielle comme quoi c'était le site du budget qui était retenu, parce qu'on était en lice avec Tricastin, nos amis de Tricastin. Mais de toute façon, si ça avait été Tricastin, c'était pareil, que ce soit budget ou Tricastin. Mais bon, en plus, c'est vrai qu'il y a une aberration là-dedans. Et tout ça a été voulu et entretenu et souhaité par les élus locaux du département et de la communauté de communes.
Oui, oui. Bon, c'est comme les élus locaux qui se battent pour les JO d'hiver en ce moment.
Oui.
Alors qu'on est aussi sur des absurdités incroyables. Une fois posé tout ça, on a l'impression voilà, que c'est fait le fait matériel est complètement nié, qu'on a en face de nous une petite musique, tu disais comme ça, qui est un peu permanente de la part de... Ange Potin parlait de l'arbre qui cachait la forêt en parlant de Jean Covici. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut se bouger un peu plus ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des quel angle de discussion attaquer, enfin prendre, pour essayer justement de rappeler la matérialité de ces faits et l'existence d'éléments scientifiques, techniques, qui peuvent apporter autre chose. Et je pense notamment à ce que dit aussi Jean Covici sur la sobriété, qu'on entend très, 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 très peu. Parce qu'on nous oppose à l'électrification massive de la mobilité notamment. Du coup, nous, citoyens, comment est-ce qu'on peut faire pour justement se positionner et quels sont les quelques éléments finalement que sortir du nucléaire, vous nous dites, voilà, vous êtes en discussion avec votre grand-mère le week-end prochain, voici les quelques éléments qu'on peut sortir pour essayer de batailler contre cette petite musique.
Il y a plusieurs choses. Il y a comment on peut nous donner une autre information. Mm-hmm. Puis après, il y a qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, juste, qu'est-ce qu'on fait, nous, déjà, au niveau de SDN Budget ? On essaye de donner un autre son à entendre. Oui. Donc, c'est vrai que grâce à Joël Guéry, qui est notre caution scientifique de sortir du nucléaire budget, Joël Guéry a élaboré un cycle de conférences, notamment sur les énergies renouvelables et donc les EPR. Et donc, il intervient sur plusieurs communes sous forme de conférences-débats.
Okay.
Et donc, on était, il y a moins d'un mois encore, sur la commune de Lagneux, qui est donc tout près de la centrale. Et donc, on fait régulièrement des conférences où les gens... Donc, c'est entrée libre. Et donc, les gens viennent, dans un premier temps, entendre donc, tout un tas d'informations sur les EPR de manière très, très pointue. Puis après, s'ensuit une discussion qui peut être plus ou moins sereine, parfois houleuse. Mais enfin, en tout cas, c'est aussi l'occasion pour la population de venir nous rencontrer et puis justement déjà d'avoir d'autres renseignements. Donc ça, il y a ce travail d'information qu'on fait. Puis après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors pour le coup, là, on peut être que d'accord avec Jean Covici. C'est-à-dire qu'il faut quand même revenir à une forme de sobriété, ça c'est évident. En termes de d'isolation des bâtiments, il y a un travail énorme à faire, clairement. Et puis, je crois, ce n'est pas moi qui le crois, mais si effectivement on sort du tout pétrole pour aller vers le tout électrique et que c'est effectivement pour alimenter des SUV de 2,5 tonnes, ça ne va pas. Donc il y a tout un système à revoir. Mmh. Et ça, effectivement, ça, il y a une vraie prise de conscience à avoir par rapport à notre mode de fonctionnement. Tout est à reprendre à zéro.
Est-ce que on peut, avant de terminer, on va se faire une petite pause musicale et puis on reviendra sur un ou deux éléments. Je voulais notamment parler du scénario Négawatt, dont on va avoir une émission bientôt dessus. Mais c'est des choses aussi qui sont portées par sortir du nucléaire.
Bien sûr.
Thank you. Tchernobyl, with love. From Tchernobyl, with love. From Tchernobyl, with love. From Tchernobyl, with love.
Calade
100.9.
Et nous sommes de nouveau ensemble pour la conclusion de cette émission. Jean-Pierre Collet, je voulais te redemander sur ces histoires de sobriété. C'est dans le plan, dans le scénario Négawatt, c'est un des éléments fondamentaux et c'est ce que vous dites aussi à sortir du nucléaire. On a parlé fin du techno-solutionnisme, sobriété. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à laquelle, sur lesquels vous vouliez pousser pour dire on peut s'en sortir?
C'est vrai qu'il y a le scénario de Négawatt, effectivement, qui à l'horizon 2050 effectivement, propose une sortie du nucléaire complète avec les énergies renouvelables. Donc clairement, il y a cette piste. Et puis, il y a aussi l'idée que... je crois qu'on ne peut pas raisonner pays par pays. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'on repense les échanges énergétiques avec les autres pays, qu'on mutualise nos besoins, clairement. Il faut vraiment qu'on sorte de cette vision des choses.
Et donc, changer de paradigme. Hein. On est vraiment
et changer de paradigme, clairement.
Changer
ouais.
Le système et ça pas sera le mot, le climat. Oui. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
On pourra retrouver toutes les références sur la page de l'émission de Calade. Mais vous avez aussi un site internet et des événements qui arrivent bientôt.
Oui, alors on a un site internet qui s'appelle Stop Budget, www.stopbudget.org, bien sûr, hein, qui fonctionne depuis 12 ans. On a une page Facebook sur Terre du Nucléaire, Budget, effectivement, oui.
Et vous avez bientôt un événement.
Oui, on a un prochain événement qui est dans le cadre de... la lutte anti-nucléaire se reconstruit là au niveau national et dans le cadre d'une action nationale sur Lyon. Nous serons le 26 avril, anniversaire de Tchernobyl, enfin anniversaire, hein, commémoration de Tchernobyl, sur le pont Wilson, à la mi-journée, donc de 11h jusqu'à dans l'après-midi, donc, hein, par rapport aux EPR, bien sûr, et le nucléaire.
Alors n'hésitez pas à passer sur Lyon ce jour-là et nous rappelons que vous avez publié un bouquin qui s'appelle Claudette et la centrale aux éditions Edilivre. On a eu aussi Ange Potin qui nous a parlé de nucléaire. Le nucléaire imaginé aux éditions de la Découverte. Vous allez retrouver toutes ces informations sur notre page de l'émission de Radio Calade. Merci vraiment à toute l'équipe de Alternativa Radio là, qui a préparé ce sujet. Un grand merci à Bernard et à Gaël, complété musicalement par JC. Pierre et Gaël étaient à la technique aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. On parlera du projet du bord de l'An, projet de port fluvial au bord de l'An à Anse. Il y a un petit groupe d'Alternativa et plein d'autres ONG qui travaillent dessus depuis plusieurs mois. Et c'est un projet un peu d'un autre temps sur lequel on voulait mobiliser un peu la population. Après plusieurs mois d'enquête et de rencontres avec les élus, on a de quoi vous en parler le mois prochain. Et d'ici là, vous pouvez aller réécouter cette émission sur le site de Calade. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits mots sur les réseaux sociaux, sur notre page Instagram et sur Facebook. Très bonne semaine à tous. Bonne soirée.
Alors on change, qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de change. On n'a plus le temps de faire semblant, alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
Calade,
ma radio.